Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Et si on en parlait sur Radio Orient, Loïc Barrière avec vous aujourd'hui. Notre émission va porter sur la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Deux invités dans cette émission. Dans la deuxième partie, nous écouterons Maître Khadija Azougash, avocate et anthropologue, membre de l'association Lawyers for Women. Mais d'abord, notre premier invité est Patricia Elias, Maître Patricia Elias, puisque vous êtes également avocate en droit international, militante pour les droits de l'homme et les droits des femmes. Bonjour.
Bonjour Loïc.
Alors Patricia Elias, nous allons parler avec vous des droits des femmes dans le monde arabe. D'abord, un mot sur le rapport concernant la situation des femmes au Liban que vous avez présenté le 14 février dernier à Genève. Une situation qui reste difficile pour les femmes au Liban dans le contexte de la crise sanitaire et de la crise politique et économique.
Absolument. J'ai présenté donc le 6e rapport de l'ombre du Liban au comité CEDAW des Nations Unies, c'est-à-dire le comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. Et j'ai basé mon rapport sur l'importance de la participation politique des femmes au Liban, parce que le Liban est dans, je dirais, dans les dernières places mondiales. Il n'y a que 9 pays après le Liban en classement de participation politique pour les femmes. Je rappelle qu'au Parlement libanais, il y a moins de 4% de femmes uniquement, alors que je dirais que dans le monde arabe en général, la participation politique des femmes varie de 10, 15 à 20%. Nous sommes dans les 4%, donc bien en dessous et en deçà de tous les quotas mondiaux. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule ministre femme au gouvernement. Et ça, ça influe énormément parce que, évidemment, si vous avez plus de femmes en participation politique, ça garantit la stabilité de l'État, ça garantit qu'il y ait moins de corruption, ça c'est selon les études internationales. Et je pense que ce serait une solution pour le Liban d'avoir plus de femmes activistes au sein des instances gouvernantes pour nous sortir de là où le pays se trouve actuellement. J'ai également parlé de, nous avons une loi qui a été instituée en 2014 sur la protection des femmes et de tous les membres de la famille des violences conjugales et domestiques, parce que cette loi n'a pas de sanctions suffisamment rédhibitoires pour les hommes. Et donc, nous voyons, certaines sanctions vont de 3 à 6 mois de prison. Et tout ce qui est moins qui va de 3 à 6 mois de prison, les hommes ne font pas de prison. Et donc, c'est comme s'il n'y avait pas de sanctions. Et même certaines sanctions monétaires sont équivalentes à une amende. Vous voyez, une amende de circulation. Donc, un homme qui a une amende de circulation pour avoir, excusez le terme, tabassé sa femme, eh ben, ça va pas du tout l'empêcher de recommencer. Donc, c'était juste pour que les sanctions soient rédhibitoires et ne soient pas aussi, disons, légères, parce que sinon, ça ne peut pas prévenir les actes de violence que les hommes commettent, malheureusement, souvent vis-à-vis de leurs épouses, conjointes, etc. Et même femmes divorcées. Parce que, en général, quand il y a un divorce, ça fait exploser la violence conjugale entre les hommes et leurs ex-épouses.
Patricia Elias, sur la question des droits des femmes dans le monde arabe, quels sont les enjeux principaux selon vous? Il y a le mariage des mineurs, la question du droit parental, la participation politique, vous venez d'en parler. Il y a aussi l'égalité salariale, l'égalité devant l'héritage. Ce sont tous ces enjeux qui importent en 2022.
Absolument, absolument. Et puis, malheureusement, je vais vous dire, j'étais en train de regarder le rapport de la Banque mondiale sur la situation des femmes dans le monde arabe. Et gentiment, évidemment, il commence par dire que beaucoup d'avancées ont été faites dans les pays en développement d'Europe, Afrique centrale et Afrique, mais pas dans les pays développés, mais les pays en développement. Mais ils disent quand même que la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, la région MENA, est la lanterne rouge du classement avec à peine 12 réformes, alors que l'on connaît l'impact des entraves juridiques et commerciales à la participation des femmes, à la population active, avec des pertes de revenus estimées à 27%. C'est-à-dire la non-participation des femmes à la vie active dans leur pays, c'est chuter et perdre aux États 27% de revenus. Donc, malheureusement, dans les pays arabes, il n'y a pas eu d'avancée concernant les droits fondamentaux qu'on appelle les droits humains. À savoir, comme vous avez dit, le mariage des mineurs, nous voyons la conséquence que dans tous les pays arabes, nous n'avons pas un plafond, c'est-à-dire, disons, un âge minimum en deçà, on ne peut pas aller pour faire marier des filles, des enfants, des petites filles. Donc c'est le mariage des mineurs. Ça devrait être, disons, légiféré dans tous les pays arabes, ça ne l'est pas. Quand on parle des droits de la femme, quand on parle de la Journée internationale de la femme, il faut qu'on parle de la Convention internationale relative à l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW, qui est la Convention des droits de la femme, internationale des droits de la femme. Or, l'attitude des États arabes est paradoxale et ambivalente par rapport à ces conventions. Tous les pays arabes l'ont signé, sauf deux, mais les discours officiels des pays arabes expriment à la fois une politique d'émancipation des femmes, de promotion de leurs droits, de maintien de l'ordre et en même temps de maintien de l'ordre patriarcal ancestral en s'appuyant sur des règles d'origine religieuse qui continuent à régir la famille et la société. Et l'écrasante majorité des États arabes, au nombre de 19, a ratifié cette convention, comme je vous l'ai dit, mais la plupart l'ont fait sans refondre des législations discriminatoires nationales et sans adopter des lois égalitaires, tout en formulant des réserves essentiellement à l'encontre des droits des femmes dans la famille et vis-à-vis des enfants au nom des règles religieuses. Et ces réserves constituent une atteinte à l'unité des droits humains et à leur universalité, ainsi qu'une violation de l'égalité entre les sexes, qui est l'objectif à atteindre par la Convention. C'est-à-dire que tous les pays arabes ont émis des réserves concernant particulièrement deux articles, l'article 9 et l'article 16. L'article 9 qui porte sur la nationalité, qui dit que les femmes et les hommes ont le droit de la même manière de transmettre leur nationalité à leurs enfants ou à leurs conjoints. Et malheureusement, la plupart des pays arabes ont émis une réserve là-dessus, ainsi que l'article 16 qui concerne les droits de la famille, le statut personnel, c'est-à-dire divorce, héritage et aussi droits sur les enfants. Et le Global Gender Gap Report 2018 a classé la majorité des pays arabes parmi les derniers de la liste en matière d'égalité hommes-femmes, malheureusement. Je vais aussi passer sur le fait que malheureusement, la plupart des pays arabes continuent à admettre la polygamie. Ce qui est vraiment une discrimination notoire vis-à-vis des droits de la femme et de l'homme. Je vous dirais qu'il y a deux pays qui sont un peu en avance, par exemple par rapport à la nationalité. En Tunisie, ils ont institué le droit des enfants nés d'une mère tunisienne et d'un père non tunisien d'acquérir la nationalité tunisienne. L'Égypte et le Maroc ont suivi et ont reformé leur code de la nationalité en 2004 et 2007, accordant ainsi aux femmes et aux hommes les mêmes droits concernant la transmission de la nationalité aux enfants, ce qui est très important. Dans les pays arabes, il y a uniquement deux pays qui sont la Tunisie et le Maroc qui ont enlevé toutes les réserves concernant la CEDAW, c'est-à-dire qui ont admis qu'il y ait une égalité totale entre hommes et femmes. Le seul problème, c'est que ça n'est pas suivi sur le plan des législations nationales. C'est, disons, un pas en avant.
Patricia Elias, pour que les lois changent, est-ce qu'il faut aussi gagner la bataille culturelle ? Vous parliez de religion tout à l'heure. Est-ce qu'à vos yeux, il faut travailler sur cette question, montrer qu'octroyer les mêmes droits aux femmes qu'aux hommes n'est pas incompatible avec le respect des lois religieuses ?
100%. Parce que malheureusement, dans nos pays arabes, nous avons des pratiques patriarcales et traditionnelles enracinées. Et donc la politique des pays arabes vis-à-vis de la condition de la femme est souvent marquée par une réticence, vous voyez, vis-à-vis de ces pratiques patriarcales, mais d'un autre temps, parce qu'aujourd'hui la femme est devenue l'égale de l'homme rien que pour le travail, parce que la femme elle aussi a attaqué le monde du travail et subvient à part égale avec son mari ou à son compagnon aux besoins de la famille. Donc du fait que la femme a acquis ses droits en travaillant, en étant elle aussi pourvoyeur de fonds et pour la famille, je ne vois pas pourquoi elle n'aurait pas les mêmes droits que le sexe opposé. Mais le problème, c'est que ces droits des femmes et le principe d'égalité entre les sexes est le domaine de prédilection des discriminations Et le plus important, c'est la famille. Le domaine de la famille reste un domaine de discrimination. Parce que je vais vous dire, dans tous les pays arabes, malheureusement, une femme divorcée, si jamais elle se remarie et qu'elle a une petite fille, la plupart des lois dans les pays arabes vont lui retirer la garde de son enfant. Parce qu'elle a osé se remarier. Alors que les hommes peuvent se remarier, divorcer, ils gardent toujours les droits parentaux sur leurs enfants. Alors qu'une femme donc est condamnée une fois divorcée à ne plus jamais se remarier, sinon elle perd la garde surtout de ses filles. Dans certains pays, c'est de tous les enfants, mais dans la plupart des pays, c'est surtout la garde des filles. Imaginez, c'est juste insupportable de discrimination. Je ne parle même pas du fait que l'héritage, dans la plupart des pays arabes, l'homme a le droit d'hériter deux fois la part d'une femme. C'est juste une discrimination qui, au XXIe siècle, est juste insupportable et ne pas continuer.
Patricia Elias, en Tunisie, une femme a été nommée chef du gouvernement, Najla Bouden. C'est une première dans le monde arabe. Et c'est un symbole fort à vos yeux ?
C'est un symbole extrêmement fort. Nous attendons encore les actions, si vous voulez, parce que je vous dirais que dans les pays arabes, même au Liban, à un moment donné, ils avaient nommé 6 femmes ministres, mais disons que c'était des femmes ministres comme les hommes ministres, malheureusement, dans beaucoup de gouvernements des pays arabes, qui sont juste là pour la galerie. J'ose espérer que, évidemment, la première ministre en Tunisie ait un rôle extraordinaire et elle pourrait faire de grandes choses, de grandes réformes en Tunisie. Nous attendons ça vraiment avec beaucoup d'espoir, pour encourager les autres pays arabes à prendre le devant et à imiter la Tunisie. Et pourquoi pas avoir des gouvernements moitié-moitié en parité homme-femme. Parce que c'est extrêmement important pour l'avenir de nos pays. Je voulais vous dire simplement, la polygamie n'est expressément interdite qu'en Tunisie. Et le chef de famille demeure la règle, sauf au Maroc et en Algérie. Et la dot de la femme est une condition de validité du mariage et que la mère célibataire n'a pas de statut juridique. Je veux dire, qui au XXIe siècle exige une dot de la femme pour se marier avec ? Je ne vous parle pas des droits successoraux, mais surtout aussi, c'est qu'ils n'ont pas évolué malgré le changement du rôle des femmes dans la famille, leur contribution de jure et de facto à la satisfaction des besoins de la famille. Il existe en la matière une discrimination flagrante entre les hommes et les femmes puisque toutes les législations reposent expressément sur un cercle de successibles hommes plus large que celui des femmes. La règle selon laquelle l'homme a le double de la part de la femme se maintient avec le privilège de la masculinité. En plus, l'héritage entre des personnes de religions différentes est interdit et la femme non musulmane mariée à un musulman n'a pas le droit à l'héritage. Et cette règle fait l'objet de textes clairs dans certains pays. Donc toutes ces législations doivent changer pour pouvoir faire changer le statut de la femme dans tous les pays. Et je vous dirais, la Tunisie a, en matière de droits des femmes, a les statuts les plus avancés, mais sur le terrain, ça ne prend pas. Et comme vous aviez dit, c'est une question culturelle. Il faut travailler sur l'implémentation dans les mentalités et le changement des mentalités pour l'adoption de ces lois qui sont moins discriminatoires. Nous n'oublions pas que la Tunisie préconise en participation politique 50% hommes, 50% femmes, ce qui est très rare dans les pays arabes. Et donc, si vous voulez, on peut parler un peu de la participation politique dans les pays. La plupart des pays de la région MENA n'ont pas de quotas dans leur parlement. Mais Djibouti, Égypte, Jordanie ont rendu obligatoire des quotas pour les femmes députées de 10% de sièges et le Maroc 15%, l'Irak 25%. Sans des mesures temporaires spéciales préconisées par la Convention CEDAW d'avoir des quotas dans les parlements, dans la représentation politique et dans les sièges électoraux ou bien dans les nominations pour les pays arabes, nous n'aurons pas d'avancement du statut de la femme dans ces pays-là.
Patricia Elias, vous l'avez dit tout à l'heure, il arrive que des lois soient votées, mais qu'elles ne soient pas appliquées parce que la société n'est pas encore prête. C'est par la culture, le cinéma, la télévision, la littérature, Internet, qu'on pourra faire bouger les mentalités.
Absolument, et vous avez bien fait de me rappeler ça, j'avais oublié, les médias. Extrêmement important, la télévision, les films. Je vais vous dire une chose, nous avons malheureusement dans les pays arabes, dans tous les films des pays arabes, vous avez des violences vis-à-vis des femmes, des violences que j'appelle ordinaires. C'est-à-dire que dans toutes les scènes, dans les films arabes, vous avez l'époux, le mari, le conjoint qui brutalise et violente sa femme par les paroles et par les gestes, à savoir l'attraper par les cheveux, la gifler, la jeter par terre. Et ça, c'est juste inadmissible. Nous devions faire une surveillance de nos médias, de nos films, pour éliminer cette violence ordinaire, entre guillemets, qu'il y a dans tous les films, qui font que le petit garçon et la petite fille qui regardent ces films trouvent que c'est normal d'agir comme ça plus tard avec son conjoint, sa conjointe, etc. Et que la petite fille va voir ça et se dire qu'il est normal plus tard de se faire traiter de la sorte par son époux. Je peux vous dire que parfois, je suis pas en train de regarder un film, j'attends les nouvelles. Et en attendant les nouvelles, nous avons la publicité d'un film arabe qui passe, et il y a des scènes de violence, mais parfois insupportables. Mais ce sont des scènes absolument ordinaires. Et je pense que ça passe extrêmement, de façon très importante par les médias, de s'auto-censurer concernant les scènes de violence ordinaires, comme j'appellerais, ou alors de montrer que ce n'est pas la norme et que ça n'est pas juste même pas admissible. Je peux vous dire qu'actuellement, il y a deux séries très connues qui sont en train de passer à la télé et le mari, par exemple, va dire à sa femme « Je t'interdis de sortir, cette semaine tu ne sors pas, tu ne vas pas sortir de tout le mois, tu me demandes mon autorisation pour pouvoir sortir de la maison. » Mais on est où? On est dans quel siècle de parler de cette façon? Et je veux dire, les jeunes, les hommes, tous ces gens-là, en voyant ça, vont penser que c'est la norme. Les médias ont un rôle extrêmement important dans l'éducation de la population, dans l'avancement des droits humains, parce que les droits de la femme sont des droits humains. Je parle même pas de droits de la femme elle-même. Et ça, c'est sans passer par le fait que les pays arabes devraient avoir des lois contre les violences faites aux femmes, parce que avec la Covid-19, on a vu qu'il y avait eu une explosion de violences contre les femmes, parce que à cause de la promiscuité, et ça n'a pas été pris en compte par les pays. Bon, le Liban a une loi contre les violences faites aux femmes, la Tunisie aussi, mais les autres pays arabes n'ont aucune loi contre les violences faites aux femmes. Je vais vous dire autre chose aussi. Les femmes en politique, il faut qu'il y ait aussi une loi pour les violences faites aux femmes en politique. J'ai assisté à des débats politiques avec des femmes et les hommes, députés, attaquent les femmes sur des sujets très personnels et en mettant leur intégrité physique en cause. Je veux dire, ce sont des actes qui ne sont plus permis et en public en plus. Et les hommes n'ont pas honte de le faire. Et ça devrait être sanctionné. Je peux vous dire aussi qu'actuellement, il y a une explosion de violences en ligne contre les femmes. Sur Facebook, on leur fait des campagnes de dénigrement, de harcèlement. Si tu veux, il y a tout un panel d'actions qui peut être pris, mais il n'y a pas de volonté de nos pays, malheureusement. Il n'y a aucune volonté.
Merci Patricia Elias. Je rappelle que vous êtes avocate en droit international et militante pour les droits de l'homme et les droits des femmes. La deuxième partie de « Et si on en parlait ?» dans quelques instants. Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet. Retour sur le plateau de « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient, émission qui porte, je vous le rappelle, sur la journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Nous sommes à présent en compagnie de Maître Khadija Azougache. Vous êtes avocate au barreau de Paris, anthropologue et secrétaire générale de l'association Lawyers for Women. Bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons parler des violences faites aux femmes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et nous expliquer comment vous avez été amenée à défendre des femmes victimes de violences conjugales?
Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'accorder ce moment pour parler des violences faites aux femmes, parce que les violences, c'est pas uniquement le 8 mars, c'est tous les jours. On en reparlera ultérieurement, mais concernant mon parcours, je suis à l'heure actuelle, donc comme vous l'avez rappelé, avocate, et donc pour être avocate, j'ai fait des études de droit, j'ai un doctorat en droit international à la Sorbonne, et j'ai un parcours également un peu atypique d'anthropologue. que je me suis dit, c'est bien de faire du droit, mais c'est important de comprendre la société qui est là pour créer ce droit et qui est censée appliquer ce droit. Et donc, je me suis inscrite en anthropologie après mes études de droit.
Alors Khadija Azougache, vous avez été appelée devant des tribunaux et à la Cour de justice de Namur en tant qu'experte des crimes d'honneur. Vous pouvez nous parler de cette expérience ?
Oui, c'est une forte expérience, très riche expérience, parce que, comme dans votre première question, quand vous m'avez posé la question de savoir pour quelle raison je me suis intéressée à ces questions de violence faite aux femmes, c'est du fait d'un engagement. Parce qu'en tant qu'avocat ou en tant que juriste, on n'est pas sensibilisé sur ces questions. C'est pas ce qu'on retrouve à l'université de droit. C'est essentiellement lorsqu'on est ouvert sur notre société. Et donc, c'est un engagement de terrain depuis l'âge de mes 17 ans auprès d'une association, notamment le planning familial. Et j'ai pu voir que, malheureusement, en France, au XXe siècle, puisque c'était encore le XXe siècle, en France, au XXe siècle, persistaient des inégalités entre hommes et femmes, et malheureusement, ça se concrétisait par des violences, mais aussi des féminicides. Et dans les formes aggravées, donc il y a les féminicides, et il y a des crimes d'honneur. Et c'est en cela qu'on m'a demandé, dans les années 2000, d'intervenir à Namur dans une cour d'assises en appel parce que on jugeait en appel, le ministère avait fait appel suite à un féminicide d'une jeune fille, en appel au motif qu'il y avait eu du relativisme culturel. En première instance, les parents et le frère auteur du meurtre ont été condamnés à de très faibles peines au motif qu'on ne pouvait pas comprendre, c'est leur culture, c'est comme ça, alors que le ministère a estimé qu'il y avait une égalité devant l'application de la loi, quelles que soient les origines, quelle que soit la religion ou autre, et donc a fait appel et m'ont demandé d'intervenir en tant qu'experte à cette audience. J'ai dû rappeler qu'en Inde, il y a eu des évolutions, qu'en Inde, il y avait cette condamnation de cette exécution de cette femme au nom de l'honneur d'une famille ou d'une tribu ou d'une caste. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une caste. Et donc, qu'il fallait arrêter de faire du relativisme culturel, notamment lorsque les personnes sont là depuis plusieurs générations. C'est une légalité devant la loi. Et c'est en cela que c'était une très riche expérience.
Alors Khadija Azougache, quel premier conseil donnez-vous à une femme qui vous sollicite dans votre cabinet parce qu'elle est victime de violence ou de harcèlement de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint?
Lorsqu'elles arrivent à frapper à une porte, peu importe la personne qu'elle a en face, c'est déjà un effort considérable, c'est prendre conscience d'une situation qui est anormale. Souvent on fait culpabiliser les victimes en leur disant mais pourquoi vous n'en avez pas parlé plus vite, pourquoi vous n'en avez pas parlé avant à des personnes, mais c'est une situation très difficile, c'est ce qu'on appelle l'emprise et c'est le tabou également parce qu'on nous a rappelé depuis des siècles que ce qui se passe dans l'intime doit rester dans l'intime et ne doit pas être dévoilé à la société. Et là, on nous parle de l'intime, on pense nous dévoiler une faiblesse. Elles me disent, maître, j'ai honte de vous dire cela. Et là, la première chose, c'est de les rassurer. Je les rassure. Je leur rappelle qu'elles auront mon écoute, elles n'auront pas de jugement de ma part, et qu'elles sont avant tout des victimes et que la honte doit changer de camp. Donc la première chose, c'est vraiment l'écoute, l'empathie, et ne pas juger à leur place, parce que souvent, malheureusement, on pense à connaître mieux que les autres. On pense prêcher la bonne parole. On est censé considérer la victime, la personne qui est en face de nous comme un sujet de droit avant tout et pas décider à sa place. Donc, la mettre en confiance pour qu'elle puisse prendre les décisions de sa vie et être actrice de leur vie.
Maître Azougache, vous l'avez dit, parfois certaines femmes se voient reprocher d'être restées longtemps en couple avec leur bourreau alors qu'elles subissaient des violences. Les juges devraient-ils être formés davantage à comprendre le phénomène d'emprise et de manipulation psychologique ?
Tout à fait, parce que Là, on a encore malheureusement ce type de réflexion où on pourrait nous dire, même si depuis le Grenelle, depuis 2020, il y a un peu plus de sensibilisation de la société, ça a un avantage, on ouvre un peu plus les yeux sur cette spécificité, on entend encore tout de même, malheureusement, soit de l'autre côté de la barre, soit du côté des magistrats qui vont se poser la question, qui vont avoir des doutes, en se disant, mais cette femme qui, pendant plus de 20 ans, a été victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles, voire économiques, elle n'a rien fait jusqu'à présent, c'est probablement, il y a quelque chose, il y a une part de substance, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre le mécanisme de l'emprise, c'est des cycles de violence par lesquels l'auteur de violence fait en sorte que la victime arrive à douter d'elle-même, à manquer de confiance, à penser que c'est elle la responsable de toute cette situation. Et surtout, quand il y a des enfants, cette culpabilisation est plus importante parce que la société rappelle également que le père a des droits sur l'enfant et donc que madame doit se sacrifier dans cette situation. Les magistrats, malheureusement, quand on plaide et qu'on essaye d'expliquer cette situation d'emprise qui est très psychologique, qui justifie la non-procédure pendant un certain temps, malheureusement, du fait de l'encombrement des tribunaux, nous rappelle qu'il faut aller à l'essentiel, qu'il faut aller simplement dans le rappel du droit. Et donc, on peut bâcler cette phase qui est essentielle dans la compréhension du mécanisme.
Khadija Azougache, le CHU de Lille a récemment signé une convention avec le parquet de Lille pour permettre au personnel soignant de signaler directement au parquet des faits de violence. Une convention de ce type a été signée aussi à Amiens. C'est une pratique qu'on pourrait généraliser pour aider les victimes de violences conjugales.
Alors, quand il y a eu des projets de loi sur cette possibilité de lever le secret professionnel des médecins, il y a eu beaucoup de débats. Il y a les personnes qui étaient pour, essentiellement en disant, mais ça va dans la thèse de la protection des victimes, il faut que tous les acteurs de la chaîne se coordonnent pour lutter contre les violences faites aux femmes, et en l'occurrence, les médecins devraient signaler. Mais, moi, je fais partie des personnes qui se sont opposées à ce type de procédure au motif que, comme je vous le disais au départ, on n'est pas là pour se substituer aux victimes, qu'on considère souvent comme des assistés, je le mets entre guillemets. On est là surtout pour les conseiller sur leurs droits et leur rappeler qu'elles sont sujets de leur vie, qu'elles ont été sous l'emprise d'une personne, il ne faut pas qu'elles retombent sous l'emprise d'une autre personne. Par le signalement, on les considère comme des mineurs. Et donc, il faut faire attention à cette situation-là. Des professionnels de santé, c'est pour ça beaucoup de professionnels de santé s'opposent à cela, ils estiment que c'est simplement, et c'est en cela qu'on les rejoint, en cas de grave mise en danger de la personne, qu'il faut intervenir. Et ça, le droit commun le prévoit déjà. En cas de mise en danger d'une personne, peu importe, qu'on soit médecin, avocat, peu importe notre profession, on est dans l'obligation d'intervenir et de signaler.
Maître Azougache, les victimes de violences conjugales seront désormais averties de la sortie de prison de leur conjoint. De cette manière, on va pouvoir éviter de nouveaux drames. Est-ce que déjà c'est possible compte tenu de l'état de la justice?
Oui, alors c'est une belle avancée parce que jusqu'à présent, on considère que les victimes sont subsidiaires dans le accessoire dans les procédures pénales notamment. L'auteur de violence, c'est l'acteur principal. La victime, même si elle n'est pas présente, peu importe, la procédure va sur son cours. Elle n'est pas informée, hormis si elle a un avocat qui fait les actes pour la tenir informée. La victime est rarement informée et surtout, on pense qu'une fois que l'auteur a été condamné, qu'il n'y a plus lieu de la tenir informée. Donc ce décret est salutaire parce qu'on va pouvoir ainsi la préparer à une protection, notamment à demander un téléphone grand danger ou des bracelets anti-rapprochement si cette personne a une remise de peine ou a fini sa peine de prison. Donc, sur ce point, c'est salutaire, mais sur la pratique, c'est problématique parce que il y a un manque de moyens, que ce soit humain ou matériel, parce que ça nécessite un investissement qui n'a pas lieu aujourd'hui en France, puisque on est à 6 euros d'investissement par personne pour lutter contre les violences faites aux femmes, alors que nos voisins espagnols sont à plus de 16 euros par personne dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'investissement contre la lutte contre les violences faites aux femmes.
Maître Azougache, est-ce qu'il faudrait adopter une loi pour l'émancipation économique des femmes? Car vous le savez bien, de nombreuses victimes restent avec leurs conjoints violents, car partir signifie basculer dans la pauvreté. Il y a par exemple la question du logement, partir, mais partir pour où?
C'est une question importante parce qu'on minimise les violences économiques. On minimise quand on arrive de plaider dans des dossiers les violences économiques et on me regarde l'air de dire « mais de quoi parle-t-elle ?» Puisque, et c'est vrai, parce que notre droit français ne reconnaît pas encore les violences économiques. Ce n'est pas prévu dans nos textes, contrairement à des pays européens, où les violences économiques sont reconnues parce que la Convention d'Istanbul l'a prévu et déjà a rappelé à l'ordre la France pour que des dispositifs soient adaptés sur les violences économiques, parce que c'est quand on parlait des cycles de violence, c'est par cette dépendance également que s'instaurent les violences psychologiques puis physiques. Donc la violence économique, le fait d'avoir son ascendance sur par exemple la gestion de l'argent du ménage, c'est une maîtrise, c'est un contrôle de l'auteur sur la victime. Donc notre droit à l'heure actuelle se réveille un peu sur cette situation qui est catastrophique, parce qu'on note fréquemment que les auteurs de violences demandent à leurs femmes alors qu'elles sont... parce que ça touche tous les milieux. Et on a encore aujourd'hui beaucoup de préjugés pensant que ça touche les personnes les plus démunies. Non, malheureusement, ça n'a pas de couleur de peau, ça n'a pas de statut social. Elles sont universelles, les violences en France. Et donc, elles touchent des personnes qui peuvent avoir un bagage important. Elles peuvent être avocates, elles peuvent être médecins. La victime se dévalorise et considère que... il a peut-être probablement raison, qu'il faut qu'elle arrête de travailler et donc on va l'isoler et à partir de là, elle va dépendre financièrement de l'auteur et tombe ainsi sous sa dépendance totale.
Maître Azougache, est-ce qu'il faudrait mettre en place des tribunaux et des brigades spécialisées contre les violences faites aux femmes?
Merci pour cette question qui est essentielle parce que ça a été fréquemment, quand on fait le comparatif au niveau européen, on regarde ce qui se passe de bien chez nos voisins et c'est important parce que c'est comme ça qu'on avance en comparaison, par la comparaison. Et donc dans la comparaison, c'est comme on le disait, le bon élève qui est l'espagnol. L'Espagne, depuis 2004, a un dispositif qui a permis ainsi d'améliorer la lutte contre les violences faites aux femmes, puisque on sait très bien qu'ils étaient de très mauvais élèves, les taux étaient plus importants qu'en France, les taux de violences faites aux femmes et dans la Méditerranée malheureusement où il y a eu plus de féminicides et de violences faites aux femmes, et ils ont réussi à mieux coordonner la lutte contre les violences faites aux femmes, et cette coordination passait par des tribunaux spécifiques et des personnels formés. En France, on pourrait s'inspirer essentiellement d'avoir des procureurs spécialisés, des magistrats spécialisés. Ça ne demande pas beaucoup plus de moyens, ça demande essentiellement de la formation bien ciblée auprès de certains magistrats, en l'occurrence le procureur, parce que quand on dépose plainte, le circuit c'est ça, c'est lorsque la victime arrive à déposer plainte, à libérer la parole, elle se confie à un agent de police qui, immédiatement par la plainte, va faire un rapport à un procureur. Et c'est ce procureur souvent qui est de permanence, ça veut dire qu'il peut passer d'un vol à l'étalage à du grand banditisme et à des violences faites aux femmes. Donc, il doit être assez polyvalent et malheureusement pas très expert en la question. Et donc, c'est au bonheur la chance. Et nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir un procureur spécialisé. Donc, c'est des moyens humains, et parce que la justice, malheureusement, à l'heure actuelle, est encombrée et il n'y a très peu de magistrats et de moyens matériels pour mettre en œuvre de tels dispositifs.
Merci, maître Khadija Azougache. Je rappelle que vous êtes avocate et anthropologue, membre de l'association Lawyers for Women. C'est la fin de « Et si on en parlait ?» sur Radio Orient. La semaine prochaine, vous retrouverez Alexis Bachelet. Merci de votre fidélité.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications, une émission présentée par Alexis Bachelet.